Depuis Harry Potter, on connaissait les mange-morts. Maintenant, avec Jean-Luc Lepogam, on a affaire aux mange-rêves. Donc, les mange-rêves, c'est une histoire assez inquiétante qui, effectivement, concerne surtout des jeunes adolescents encore au collège et qui vont se retrouver près du château de Cecino dans des aventures inquiétantes qui se déroulent dans le futur, mais dans un futur qui est assez proche.
Oui, d'abord, c'est pas forcément une histoire que pour les adolescents. C'est vrai qu'au départ, je l'ai écrit pour des ados. C'est une trilogie en fait, dont le premier tome vient de sortir là en mars, qui s'appelle donc la trilogie s'appelle Les Mange-Rêves et le premier tome s'appelle Le Grand Dérèglement. C'est pas forcément une aventure pour des ados. C'est-à-dire qu'au départ, effectivement, je l'avais fait dans cette idée, puis j'ai pas pu m'empêcher de lâcher les chiens, comme on dit, ou les chevaux. Et c'est devenu un bouquin pour trois générations confondues, quoi.
Sachant que par contre, ce sont des adolescents qui sont héros de l'histoire.
Oui, au départ, ce sont des adolescents qui sont héros de l'histoire, trois ados de l'âge, entre en sixième, entre collège, Iwan, Thibaut et Mélanie. Mais on peut aussi rajouter deux grands-pères, genre deux grands-pères qui auraient oublié de vieillir un petit peu et qui se retrouvent, en fait, c'est ça, ils sont à peu près cinq héros dans la série, ouais.
Et c'est une histoire que vous avez eu envie d'écrire suite à un présent que vous trouvez brûlant, suite à un passé qui nous rappelle un petit peu la Seconde Guerre mondiale aussi. Enfin, et aussi, vous parlez notamment d'un mur invisible qui pourrait comme ça contourner l'ensemble de l'Union européenne, ce qui fait bien évidemment penser au mur de Berlin. Qu'est-ce qui vous a, comment dire, inspiré?
Bah, d'abord un rêve que j'ai fait. Bon, j'ai l'habitude quand je fais des rêves intéressants de les noter sur des cahiers et puis on ne sait jamais ce que ça peut devenir. Et d'ailleurs le premier chapitre c'est un rêve avec toutes ses incohérences. C'est pour ça qu'il est un peu troublant, un petit peu perturbant dans la lecture. C'est-à-dire qu'il y a pas mal de choses effectivement. En fait on commence cette trilogie par sa fin. Et on a aussi dans ce premier chapitre une impression de rêve avec toutes les incohérences, comme je le disais. Vous savez, quelquefois on rêve de choses et puis il manque des têtes, il manque des ci, il manque des ça. Et en fait, c'est pour cette raison que ce premier chapitre est comme ça. Oui, je l'ai fait pour des ados au départ, mais je l'ai surtout fait aussi pour tout le monde, pour toute la famille. C'est-à-dire que les deux grands-pères qui sont là, quand on parle de déportation d'artistes dans le bouquin, nos grands-parents le verront avec le fameux brassard rouge des DSS ou aussi avec ce bonhomme à petite moustache là. Mais les ados le verront eux comme une découverte et puis effectivement aussi un retour à l'histoire dont on leur parle au collège. Et nous, parents, on est entre les deux. Donc on a les grands-parents ont un rôle important dans cette aventure, les parents également. On est là en fait en tant que porteur de messages pour les jeunes pour qui le message est clair. Si on pouvait résumer cette trilogie en un seul mot, ce serait voter, quoi.
Oui, parce que ces rêves, c'est plutôt du cauchemar, et c'est des cauchemars qui sont lieux notamment qui sont liés à des élections qui a eu lieu donc en 2020.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire que je me suis inspiré de ce qui a failli nous arriver en 2002, et j'étais très très touché par ça, et je me suis dit, et si ça arrivait sur le monde entier ou sur l'Europe, comment est-ce que ça se passerait? Alors effectivement, j'ai fait ériger par le gouvernement en place, le gouvernement Bogdiche, qui est installé à Varsovie, en Pologne, parce que on sait très bien que les Polonais sont très amis avec les Américains, et dans cette guerre au pétrole qui s'annonce vraiment très très forte, les Américains sont souvent des alliés des Américains. Pardon, les Polonais sont souvent des alliés des Américains. Et donc, il était intéressant que la Pologne nous encercle dans ce mur de façon à laisser la place libre aux Américains pour la guerre du pétrole. Et donc, ça, c'est une parenthèse dont on ne parle pas trop dans le livre. Ce qui est important, c'est de savoir que les gouvernants ont cerclé l'Europe dans un mur électromagnétique et ils ont tout gelé à l'intérieur à moins 50. En gros, on se balade à des températures. L'hiver dure 9 mois. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de printemps, il n'y a plus d'automne. On passe de moins 50, moins 40 à plus 30, plus 40. Et parce que tout est réglé par ordinateur, en fait. Donc quand ils ont envie de geler, ils gèlent. Quand ils ont envie d'assécher, ils assèchent. Ce qui fait que les populations sont complètement déstabilisées. Et quand on est à moins 50, évidemment, en Bretagne notamment, puisque la trilogie se passe en Bretagne, on s'est occupé d'abord de ce qui se passait chez nous. Et on sait que, en fait, le Mont Saint-Michel, qui est une base dans laquelle sont déportés les artistes, cette base-là est une base pour l'Ouest de l'Europe. Et il y en a d'autres un petit peu partout. Et donc, c'est pas une fiction, c'est pour moi une anticipation, parce qu'effectivement, il y a énormément de choses qui me préoccupent en ce moment, notamment au niveau de la culture, au niveau de tout ce qui se passe. C'est-à-dire que, le gouvernement ayant isolé l'Europe à moins 50, ça permet quand même de souder les populations, d'isoler les gens, d'éviter qu'ils se promènent, donc qu'ils se cultivent, qu'ils se rencontrent, etc. Et l'abêtisement va avec, quoi.
Jean-Luc Le Pogam, Le Grand Dérèglement est sorti en 2008, mais je suppose que vous l'avez écrit avant.
Oui, en fait, l'histoire a commencé. C'est une histoire très, très, très marrante, parce que je travaillais avec Jean Fayère sur des projets, et puis on a écrit un bouquin finalement, parce que je faisais des dossiers pédagogiques, parce qu'il y a une série pour enfants qui s'appelle Philosèque et Biscotto, et on a décidé d'écrire Monnaie de singe ensemble. C'est un roman d'ailleurs qui commence à Sulcigneux aussi, comme je disais tout à l'heure, et à côté de ça, les gens nous demandaient toujours en dédicace, ah, quand est-ce que vous nous faites la suite, etc. Et Jean m'a dit froidement, bon, je pense pas qu'on va faire une suite ensemble. Donc quand on balance ça en plein de tronches, tu t'attends là. Il attend que ça fasse son effet. Alors évidemment, en face de lui, ça se décompose. Je me disais, putain, qu'est-ce que j'ai pu faire de mauvais, de si mauvais que ça. Puis après, quand ça a fait son effet, balance, non. Il m'a dit, t'écris trop bien, faut que tu continues tout seul plutôt que de t'emmerder avec un vieux con comme moi. Je cite, hein. Et donc, je me suis... Bah oui, j'avais déjà toutes les idées en tête pour commencer cette trilogie. Donc, en 2006, effectivement, oui, ça démarre en 2006.
2006, ça veut dire avant l'élection de Nicolas Sarkozy.
Ah oui, d'accord, je vois le clin d'œil. Effectivement, ouais, donc j'étais un peu visionnaire, c'est ça.
Je sais pas, hein, mais... Bogdich est un Polonais, Nicolas Sarkozy, c'est une autre origine.
Oui, c'est hongrois, je crois, quelque chose comme ça. Mais oui, c'était avant lui, mais finalement, voilà, ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure. Il y a des gens qui me disent que j'ai été rejoint par l'avance que je m'étais donnée. Et c'est vrai que quand on parle du Tibet aussi dans Le Grand Dérèglement, je me suis retrouvé tout à fait dans l'actualité récemment avec tout ce qui s'est passé par rapport à la Chine, aux Jeux Olympiques, et puis à cette flamme qui a été en France bien malmenée par tous les gens qui supportent le Tibet, dont je fais partie, je l'avoue ouvertement, parce que je ne supporte pas, comme je supporte aussi les Irlandais que Thatcher a fait crever en prison. Je dis pas mourir, je dis crever, comme Bobby Sand. Moi, j'étais en Irlande à cette époque-là, et Margaret Thatcher est en train de dégager. Les Anglais disent qu'elle est sur ses dernières jambes, c'est comme ça qu'on dit. Et à la rigueur, ça va être très mauvais ce que je vais dire, mais je suis content, parce qu'en fait, il y a quelqu'un qui m'a dit aussi un jour que quoi qu'on fasse, on passe tous les jours, toujours un jour à la caisse, et ça c'est bien. Et donc soutien des populations opprimées complètement. Pour moi, le Tibet existe, c'est-à-dire qu'il n'a pas été rayé de la carte, c'est pas une province chinoise, c'est un pays.
Le Grand Dérèglement, Les Mange-Rêves, tout se situe en Bretagne, ou parfois les héros vont ailleurs
Pour l'instant, on est en Bretagne, parce qu'on n'est jamais mieux servi que chez soi-même. Et au moins, je suis sûr de maîtriser le point de vue géographique. Et puis non, je crois que j'ai aussi en moi des racines celtiques, bretonnes, dont je parle de temps en temps dans ce livre. J'avais envie que ça se passe en Bretagne, parce que je pense que c'est chez moi. C'est chez moi, en Bretagne, mais ça ne m'empêchera pas plus tard d'aller ailleurs, parce qu'en fait, l'Europe est grande, et puis il y a de la place dans le mur.
Mais alors pourquoi l'idée, alors qu'on parle de réchauffement de la planète, finalement, d'aller plutôt vers un refroidissement ?
Eh bien, moi, j'ai entendu dire aussi qu'avec tout ce qui allait se passer, il est fort possible que le Gulf Stream rapporte des courants plutôt froids que ce qu'il nous apporte en ce moment, c'est-à-dire des courants plutôt tempérés. Et je me suis dit, pourquoi pas aller jusqu'au bout des choses et imaginer que ce soit le contraire de ce qu'on prévoit qui arrive. Et là, c'est vrai que on peut aussi imaginer que si un jour le climat est géré par des ordinateurs, on peut faire ce qu'on veut.
Donc, C'est surtout des artistes qui vont être victimes à l'intérieur de ce livre-là. Par rapport à la trilogie, est-ce que le Grand Dérèglement peut se lire, on va dire, bon, c'est le premier qui peut se lire séparément, mais est-ce qu'il a une fin? Il annonce déjà la suite du prochain qui, je pense, est déjà écrit, ou comment ça se situe à ce niveau-là?
Ça va être difficile de les lire séparément, c'est sûr. Le prochain est déjà écrit, il est actuellement chez l'éditeur, il sortira au mois d'octobre, en prochain, et le troisième tome sortira en 2009. Non, ça me paraît très difficile de les lire séparément, d'autant plus qu'il y a un tas de messages qui sont diffusés dans chacun des tomes complétant le précédent. Et ça va pas aller effectivement en s'améliorant.
Comment on a commencé, ça va être quelque chose alors.
Ouais, mais c'est vrai que je me nourris aussi de l'actualité. Pour l'instant, j'écris plus, je me consacre à la promotion du premier ouvrage. C'est vrai que dans le troisième tome, qui sera beaucoup beaucoup plus épais, beaucoup plus chaud, chaud au niveau des événements, pas au niveau de la température. J'ai réussi je me nourris de l'actualité pour ce qui se passe et j'essaye de la projeter dans l'avenir. C'est-à-dire que, par exemple, moi j'étais très surpris de voir il y a un ou deux ans toutes ces manifs par ces étudiants, ces lycéens. Je pensais que c'était plus possible, qu'on avait déjà isolé tellement les gens que de toute façon ils allaient en faire ce qu'ils voulaient, les modeler comme ils souhaitaient le faire. Et j'étais très surpris, vachement agréablement surpris, de voir que les gens étaient encore à même de bouger dans les rues pour dire ce qu'ils pensaient. J'en ai créé carrément une ville où il y aura que des adolescents dans le troisième tome, une ville qui s'appelle Taïfa. Taïfa en berbère, ça veut dire sale gosse, enfin rebelle. Et en fait, c'est une ville qui est un petit peu au-dessus de Rennes. Et dans une ville dans laquelle les mairies en place avaient fixé des caméras pour surveiller toutes les populations. Et les jeunes ont investi cette ville, ont viré tous les adultes pratiquement. Et ont réinvesti les postes de surveillance contre le pouvoir en place, finalement. Ça leur permet de surveiller toutes les entrées de la ville, les sorties de la ville, tout ce qui pourrait éventuellement venir les perturber. Donc alors les gens, les ados viennent de partout, toutes les nationalités, toutes les religions, pour bien montrer que, en fait, si on veut faire quelque chose de nous, on est des millions à pouvoir voter, on est des millions à avoir des idées, il ne faut pas se laisser bouffer.
Mais les ados ne votent pas?
Les ados voteront, et c'est pour eux que c'est important. Je pense que c'est plus intéressant, plutôt que d'aller brûler des voitures, les voitures de gens. En fait, c'est un problème de cible. Je crois qu'il ne faut jamais se tromper de cible. Quand on va brûler des voitures, quand on fait des grèves et qu'on balance des poulets dans les ports ou des poissons dans les rues, pour moi, c'est de la mauvaise grève. C'est de la mauvaise cible. C'est-à-dire que les ados qui ont brûlé des bagnoles dans les banlieues, etc., c'est pas forcément ça qu'il aurait fallu faire. Je pense qu'en brûlant les bagnoles de ceux qui ont déjà du mal à survivre en allant au boulot, c'est pas la bonne cible. Il faut aller brûler peut-être autre chose, quoi. Mais je pense aussi, il faut aller brûler autre chose et ailleurs. C'est-à-dire qu'il faut aller déverser les poissons ailleurs, etc. Et je pense que, par exemple, les gens de la SNCF, pour pas avoir toute la population ado, parce qu'en fait, après, les médias manipulent, le mieux ce serait peut-être de laisser tous les gens rentrer gratos dans les trains.
Moi, j'ai lu donc les 100 premières pages des Mange-Rêves. On voit les premières conséquences des décisions graves prises par le gouvernement Bogdiche, qui a décidé de serrer la vis de plus en plus. Mais pour que la vis soit serrée, c'est un peu l'histoire de la grenouille dans la casserole. On s'y prend petit à petit, on ne met pas les choses tout de suite en place. Est-ce que dans la suite, vous expliquez petit à petit comment on en est arrivé là, justement pour mieux attirer notre vigilance, ou comment ça se passe à ce niveau-là?
Oui, tout à fait. J'essaye d'expliquer. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de clins d'œil à la guerre 39-45. Elle n'est pas là. Je pense qu'il faut qu'elle reste dans nos esprits. J'ai fait connaissance récemment d'Allemands, des jeunes Allemands qui, quand on leur parle d'Hitler, ils ne veulent plus en entendre parler. C'est pas nous, et je les comprends. Ils veulent absolument se détacher de ça. Mais quelque part, il faut voir aussi que les néo-nazis en Allemagne sont de plus en plus nombreux. Et quelque part aussi, je pense que, comme disait Einstein, une civilisation qui veut oublier son passé est peut-être condamnée à la revivre. Et je pense que c'est... J'ai aussi des amis allemands qui sont parents et qui, quand ils arrivent ici, ils expliquent à leurs enfants, voilà ce que nos ancêtres ont fait, si on peut parler d'ancêtres, parce que ça fait quand même 60 ans. Voilà ce qu'ils ont fait, voilà ce qu'il ne faudra plus refaire. Et je pense que c'est plutôt ça qu'il faut faire.
Il y a de toute façon en Europe à l'heure actuelle une montée des fascismes, pas seulement en Allemagne, même en France justement, on a connu ça et on voit bien qu'il y a un repli sur soi qui menace.
Ouais, tout à fait, ouais. Ça, c'est pour ça que j'en parle dans ce livre. Et j'en parle aux trois générations, c'est-à-dire que, comme je le disais tout à l'heure, nos grands-parents vont le voir avec un œil dont ils pourront en parler avec leurs enfants et leurs petits-enfants. Et c'est vrai qu'il faut rester vigilant.
Pourquoi l'avoir situé en 2020, c'est-à-dire à une époque à la fois différente de la nôtre, mais encore assez proche? Parce que je suppose que si on parlait de ça maintenant dans une actualité, ça prendrait pas la même ampleur, ça prendrait pas les mêmes dimensions.
Ouais, je pense que c'est ça. Ouais, je pense que pour l'instant c'est en marche et que en 2024, si on n'est pas vigilant, si on fait pas attention, ça pourrait être comme ça. Il y a déjà des gens, d'ailleurs, dans les dédicaces ou dans les emails, les nombreux emails qu'on reçoit, et qui me disent que j'ai déjà été rattrapé par l'avance que je m'étais donnée, quoi.
Et donc, ils vous donnent des témoignages aussi de ce qu'ils peuvent vivre, qui rêvent vers ça?
Non, pas du tout. Je pense que les gens ont peur. Tout le monde a remarqué qu'il y a quelque chose en ce moment qui est en train de se passer, qui est énorme. Je ne sais pas exactement ce que c'est, personnellement. Moi, je vois que dans ce festival, on est à l'Interceltique de Lorient. Il y a moins de monde, les gens consomment moins, les gens, quand on va parler un petit peu avec les gens qui s'occupent du tourisme en Bretagne ou ailleurs, les gens consomment moins, il y a un énorme problème d'argent. J'en parle avec des étrangers parce que je travaille aussi avec le groupe gallois Mabon. Il paraîtrait que ce soit partout pareil. Donc c'est vraiment préoccupant. Et ce n'est pas qu'une histoire d'argent, tout va ensemble après. Et je pense que j'ai rien contre l'idée de l'Europe, mais je pense que depuis que tout ça, ça a été fait, c'est plus. Nous, on avait au départ de cette idée, une idée de confraternelle, en fait, que tous les gens allaient pouvoir se rencontrer, ce qui s'est fait. Mais à côté de ça, il y a des gens qui manipulent les manettes d'une autre façon et qui en font un vaste marché, un vaste foutoir, dans lequel ils sont en train de tirer des billes au maximum et pour faire crever les gens.
On peut expliquer aussi pourquoi donc le titre de cette trilogie, Les Mange-Rêves, ou on aura les explications qui viendront plus tard.
Non, le Mange-Rêve, c'est simplement le Mange-Rêve, c'est le pouvoir. C'est-à-dire que dans l'histoire, en fait, on a trois ados au départ qui ont l'habitude, enfin, dont deux, les garçons ont l'habitude de prendre des cours de guitare chez un ancien guitariste anglais qui est installé dans la presqu'île de Ruiz, qui a fait le tour du monde avec des groupes de rock avant, et il leur donne des cours de guitare parce qu'ils ont envie de faire un groupe de rock, comme souvent les ados ont envie de le faire. Et un jour, là, il y a une descente de la milice, et à partir de ce moment-là, ça va être l'engrenage vers l'enfer. C'est-à-dire que les Mange-Rêves sont en marche, le gouvernement, en fait, a ses brigades installées un petit peu partout, ses milices, etc., c'est les BMR, on les appelle, c'est les brigades de Mange-Rêves. Et donc les enfants vont rentrer chez eux après ce cours de guitare qui se termine en catastrophe, et puis les parents ont disparu. Il y en a un qui est libraire, et il y a l'autre dont les parents sont photographes d'art. Et les parents ont disparu parce qu'ils sont déjà, eux aussi, comme le musicien anglais, ils ont été enlevés, mis dans un train, ils font partie des convois en fait, qui vont vers Tombe Mort, le Mont-Saint-Michel. Et donc les gamins avec leurs deux grands-pères vont partir sur des cataskis à la poursuite du train avec le grand espoir de réussir à arrêter le train pour sauver les parents et tous ceux qui sont dedans. Et derrière eux, donc ils partent sur des cataskis parce qu'on est à moins 50, hein, donc c'est des, voilà. Et derrière eux, ils ont les hordes de Mange-Rêves sur des motoneiges qui les poursuivent en permanence et qui ont juré de leur faire la peau parce que la fille qui est dans un des cataskis, Mélanie, son beau-père, est un fief alcoolique qui est un des leaders des brigades de Mange-Rêves. Donc inutile de dire que effectivement ça rebondit énormément et qu'il y a vraiment le feu, quoi.
Pourquoi avoir situé le lieu de déportation sur le Mont-Saint-Michel, sur Tombe Mort ?
La basilique du Mont, c'est quelque chose d'absolument énorme. Et quand on j'ai eu la chance d'avoir une visite un petit peu, comment dire, privilégiée avec un des guides qui était là pour le livre, qui nous a fait visiter des endroits, on n'y croit pas, quoi. Je veux dire, les prisons, les oubliettes, enfin, tout ce qu'il y a là-dedans, c'est complètement, c'est surréaliste, quoi. Et le Mont-Saint-Michel était une prison avant. Donc, quelque part, je me suis dit, c'est tellement magique, on va traverser la Bretagne, on va contourner Rennes et on va partir du sud vers le nord, d'où d'ailleurs le titre du deuxième livre qui sort en octobre qui s'appelle La Route du Nord. Et le Mont-Saint-Michel, ouais, c'est pour moi c'est un lieu absolument fantastique, quoi. Je ressens des choses là-dedans, je suis pourtant pas ni sorcier ni magicien, mais je sais pas, la visite de la basilique tout seul ou la visite du Mont-Saint-Michel le soir quand tout le monde est parti, c'est, je sais pas, c'est absolument énorme, quoi. Mais on ne cite jamais le Mont-Saint-Michel, ça s'appelle tombe mort parce que le Tomblaine est mort, parce que ça rappelle la mort, parce que ça rappelle aussi la mer, et le mur électromagnétique passe juste derrière, c'est-à-dire que l'Angleterre n'est pas comptée dans l'Europe
comme pendant la Seconde Guerre mondiale. Ouais. Enfin, elle a été touchée, mais on n'a pas réussi. Oui, la question, c'est que finalement, ces mange-rêves, c'est aussi des mangeurs de culture. Or, surtout si on pense aux jeunes à l'heure actuelle, finalement, les jeunes, maintenant, par Internet, peuvent accéder à une culture qui leur est complètement gratuite. Seulement, le problème, c'est que la culture, pour qu'elle vive, elle a besoin aussi, comme pour le reste, de financement. Comment vous voyez, justement, ce rapport à la culture qui fait qu'il y a de plus en plus de monde par Internet qui peut accéder à la culture, qui peut accéder à la musique, qui peut accéder à tout, mais de manière gratuite. Et c'est aussi ce qui risque, finalement, de tuer la culture. Tout en s'alimentant de culture, on est en train, peut-être, de la tuer paradoxalement à côté. Vous voyez une solution à ça, de quelle façon?
La solution Bob Dish était de supprimer et de parasiter Internet pour que les gens ne le reçoivent plus. C'est dans le livre. Voilà, c'est la solution la plus radicale. Bob Dish aussi qui censure la télévision, c'est-à-dire qu'on se retrouve comme avant l'époque Mitterrand avec des télévisions pirates, des radios pirates, des journalistes pirates qui risquent leur peau à tout le temps pour informer les gens. Et je pense que c'est ce média-là qu'il faut prendre comme repère et comme dernier repère de la vérité. Maintenant, Internet, effectivement, Internet, c'est un outil absolument génial pour la communication. C'est vraiment le top, quoi. Je pense pas qu'Internet tue la culture. Je pense qu'elle l'encourage. Maintenant, c'est vrai qu'il faut gérer. Je pense que, notamment, de faire payer un petit peu chaque téléchargement, je trouve que c'est pas une mauvaise idée parce que ça permet aux artistes de continuer de vivre, parce que c'est vrai qu'à force de télécharger des disques, des vidéos, des films, etc., ça pourrait faire crever la culture, mais ça fait crever aussi les maisons de disques, et ça c'est pas mal, ça me plaît bien, parce que les maisons de disques en ont profité pendant des décennies à se sucrer sur le dos des artistes et sur le dos des spectateurs, et je trouve que quelque part que des groupes puissent vendre leurs disques maintenant directement par Internet, c'est vachement bien. Bon, et maintenant, mais pourquoi pas les groupes s'organiser à mettre leur disque en ligne. Je crois que Radiohead l'a fait récemment, en faisant payer je crois que Radiohead l'a fait en demandant aux gens de verser ce qu'ils voulaient. Je crois que ça n'a pas forcément été une réussite, mais il y a des gens qui ont donné beaucoup plus que s'ils avaient acheté le CD, et d'autres qui n'ont rien donné. Donc je sais pas ce que ça a donné au résultat. Je sais que maintenant l'album et le nouveau CD est quand même sur le marché du disque, mais c'est vrai que l'idée de faire de foutre une bonne trempe aux maisons de disques, moi ça me plaît bien. Parce que j'ai aussi travaillé en radio et je sais que si on s'appelle pas Monsieur Machin sur Radio Bidule, les maisons de disques vous ignorent complètement. Vous avez dû connaître ça à Radio Bourguignonne. Et maintenant, de devenir crédible, on peut passer par Internet. Ouais, c'est une bonne chose.
Ça va être. Il faut trouver des idées nouvelles de toute manière.
Je pense absolument, ouais.
Vous êtes plutôt optimiste ou plutôt pessimiste sur l'avenir alors?
Sur l'avenir, moi je suis optimiste complet, mais je dis aux gens que si on veut un bon avenir, il faut aujourd'hui. C'est comme quand on disait, quand les écologistes tiraient la sonnette il y a quelques années, tout le monde se foutait d'eux. Maintenant, on s'est rendu compte qu'ils avaient raison. C'est-à-dire que la planète est en train de se barrer en vrille. Je pense qu'aujourd'hui, on doit veiller pour demain. Nous, parents, grands-parents, ados, on doit veiller à notre futur. Et c'est pas en disant, ouais, on s'en fout, de toute façon, tcha tcha tcha. Non, je pense que les gens qui chantent ont des choses à dire, les gens qui écrivent ont des choses à dire. Il y a plein de gens qui font du cinéma qui ont des choses à dire, faut les écouter. Et faut surtout arrêter de bouffer ce qu'on veut vous faire bouffer. Je pense qu'il faut choisir ce qu'on veut avoir dans son assiette. Et choisir ce qu'on veut être demain. Maintenant, si on s'en fout, faudra pas gueuler.
Eh ben merci, je pense que c'est un bon mot de la fin. Merci Jean-Luc pour le programme. Donc on rappelle qu'on trouve le premier volume de la trilogie Les Mange-Rêves aux éditions Palémont, il est déjà sorti, hein, il s'intitule Le Grand Dérèglement. Le deuxième, ça sera pour le mois d'octobre, si j'ai bien tout compris. Il s'intitulera donc Vers le Nord. La Route du Nord, et le troisième...
Le troisième, c'est Tombe Mort. Et alors, encore une fois, on parlait d'Internet, on peut se les procurer sur Internet, aux éditions Palémon, tapons Palémon, où vous tapez mon nom, vous tombez sur mon MySpace, et puis bah, vous pouvez faire votre choix aussi, le commander directement, donc voilà.
Tout est possible. Donc Jean-Luc Le Pogam, et bah, c'est une lecture que je vous recommande, parce que justement, à la fois, elle suscite... le rêve, en tout cas l'action, et une réflexion sur ce qui pourrait nous arriver. Le mieux, c'est de lire ce qu'a écrit Jean-Luc Le Pogam pour que ça ne nous arrive pas, justement. À bientôt.
Merci beaucoup.